des écrivains, une émission proposée par Christophe Onodibio.
Bonjour à toutes et à tous, il est 17h et c'est le temps des écrivains, le magazine littéraire de France Culture. Cette semaine, une nouvelle rencontre entre deux êtres humains qui exercent le singulier métier d'écrire. Enfin, est-ce un métier, on leur demandera. Deux écrivains, ça c'est sûr, qui, dans leur nouveau livre, se livrent à l'exercice de l'autoportrait en le réinventant et se posent la question cruciale que se posait déjà Ulysse dans la grotte de Calypso et dont l'écriture d'ailleurs est peut-être la réponse. Quelle est ma place dans ce monde? Nous passons cette heure avec Olivier Rollin, auteur de Extérieur Monde chez Gallimard, livre total, livre d'une vie, livre de toutes les rencontres qu'il a pu faire aux Açores ou au Pirée. Hommes et femmes, serveuses, passantes ou plus longtemps. Autoportrait en homme à plume, au singulier, celle que l'on trempe dans l'encre. Bonjour Olivier Rollin.
Bonjour.
Nous serons aussi avec Charlie Delwart, auteur de Data Biographie chez Flammarion, curieux livre, cas d'école, même à la fois pérequien et Silicon Valleyien, puisqu'il s'agit d'un autoportrait sous forme de texte et de data, infographie, courbe, rond, graphique divers pour dire combien il a aimé, comment il a aimé, comment il a mangé, comment il a vécu, comment il continue à vivre. Ça pourrait passer pour gratuit, c'est au contraire essentiel. C'est un déchiffrement de soi. Bonjour Charlie Delwart.
Bonjour.
Alors, déchiffrement de soi, je disais, vous êtes Charlie Delwart, l'auteur de 4 romans au titre adorable, L'homme de profil même de face en 2010 ou encore Chute en 2015. Vous avez 44 ans, on l'apprend dans le livre. C'est peut-être cet âge d'ailleurs qui fonde ce livre. L'envie d'un bilan, d'un check-up. Vous êtes écrivain, vous êtes scénariste, vous êtes belge aussi. Je l'ai mis en troisième.
Oui, peut-être ça joue.
Ça va ou... voilà. Après écrivain et scénariste belge ou d'abord ou... Qu'est-ce que vous diriez?
En troisième, je dirais, ayant atteint une forme de maturité psychique.
Voilà, on espère.
On y croit.
C'est ce qu'on ressent dans le livre. Mais en tout cas, au lieu de réfléchir à votre vie sur le mode intime, subjectif de l'examen de conscience ou de la confession à la Rousseau, vous avez pris le parti d'y réfléchir sur le mode mathématique, à la recherche de ce qui ferait l'algorithme d'une vie. Ça donne un livre composé en fait en court texte qui introduit chacune des sections de cette data biographie. Alors situation, vie intérieure, psychanalyse, comportement civique, mode de vie, famille, sport, corps, nuit, rapport à soi, rapport aux autres, écriture, relations amoureuses, existence, monde, religion, vie, mort. Et à l'intérieur, puisqu'il s'agit de data, on trouvera des éléments sur Glenn Gould, sur les Inuits, sur le jogging, sur New York, sur la peau, le derme et l'épiderme, et ainsi de suite, et ainsi de suite. C'est couvert de graphes, de tableaux qui nous apprennent que vous avez vécu 385 440 heures, fumé 189 851 cigarettes, ingéré 97 mètres carrés de pizza. Ensuite, vous faites une sorte de distinguo entre les napolitaines, qui dominent à 80% par rapport aux romaines, et produit 1 billion de spermatozoïdes, alors que vous n'êtes père que de 3 enfants. Tout aussi intéressant, les tatouages que vous avez songé à faire et sur quelle partie de votre corps. Plus angoissant, combien de temps il vous reste à vivre? Plus angoissant aussi, peut-être encore plus, combien de mètres carrés vous auriez pu vous offrir avec le budget que vous avez consacré à vos psychanalyses? 55 mètres carrés à Athènes, 10 mètres carrés à Paris et 6 mètres carrés à Shanghai. C'est un livre qui parle de vous, mais aussi de la façon dont les hommes usent du monde qui les entoure. Par exemple, vous avez mangé 4368 poissons, mais vous n'en avez pêché que 300. Il s'agit de faits, il s'agit pire de chiffres, mais en fait, curieusement, alors que ça se présente comme froid, c'est assez chaud, car ça invite à la méditation, non mais à la poésie, c'est plein de pattes humaines, notamment sur la condition d'écrivain, ça vous intéressait, Olivier Rollin. Vous avez voulu, alors combien de fois avez-vous voulu être écrivain? 0. Combien de fois vous avez été heureux de l'être? 49. Et combien de fois vous avez regretté de l'être? 12. Quand on vous lit, on pense à Sophie Calle, on pense à Édouard Levé, on pense aussi à Montaigne, mais à Google. Qu'est-ce qui vous a poussé, Charlie Delwart, à formuler cette autobiographie, vous l'écrivain, en termes de données sèches, même si vous irriguez ces données sèches par de courts textes, mais qui sont moins présents que les courbes, les diagrammes, les tableaux? Est-ce que les mots ne suffiraient plus pour dire une vie?
J'aime assez bien l'idée d'objectivité. En fait, je trouve que l'image de soi qu'on se forme, elle devient assez claire et assez vite. Et en plus, avec une psychanalyse, on arrive assez vite à se donner un discours, à mettre un sens. Mais à un moment, en fait, je me dis, il y a un écart qui doit être mesurable entre les faits et l'image qu'on a de soi. Et en tombant sur un chiffre dans un livre de Harari, qui était le deuxième Homo Deus.
Après Sapiens.
Oui, voilà. Après Sapiens. Il comparait la population de loups sauvages de 100 000 et celle de chiens domestiques, 400 millions, ou 900 000 buffles africains pour 1,5 milliard de vaches. Et je trouvais que c'était moins les chiffres que le ratio, les masses. Et donc je me suis dit, voilà, avec quelques chiffres, on arrive à une visibilité de ce que le monde est devenu, une perte de sauvagerie, d'animalité. Et je sais pas quel chiffre serait le même il y a 100 ans, mais bon, on peut imaginer. Et je me suis dit, est-ce que pour moi, je peux arriver à une même chose, des ratios? C'est-à-dire que des chiffres qui sont pas exacts, au digit près, mais d'un autre côté, est-ce qu'on peut avoir cette même idée globalement? Donc j'ai commencé avec les spermatozoïdes et le nombre d'enfants, et très vite j'en ai listé plein, 200, et je trouvais qu'il y avait une approche circulaire brute assez juste, mais qui donnait alors à la fois, donc ça donnait des chiffres, des faits qui étaient un peu comme des planches d'anatomie. Donc très vite le livre devait avoir une partie plus charnelle, plus un contrepoint ou incarner ces chiffres. Mais à la fois, je trouvais que ça montrait aussi toutes les possibilités non investiguées. Bon, évidemment, sur les spermatozoïdes, on imagine le billion d'enfants chez soi.
Potentiel.
Et qu'on est content de ne pas avoir autant d'enfants, mais à la fois très heureux d'en avoir trois. Et je trouve que c'est, voilà, et c'est comme la surface de mètre carré. C'est-à-dire que, évidemment, il y a une comparaison financière. Mais il y a aussi la comparaison qui est poétique de se dire que, pour moi, la psychanalyse a créé un terrain sain et sauf à l'intérieur de moi. Et s'il s'agissait de le mesurer, à quoi ça ressemblerait? Et donc, je trouve que très vite, en fait, l'alliage des chiffres et d'une vision de quel est le bon ratio pour approcher cet axe-là de ma vie donne une poétique.
Mais les mots ne suffisent plus.
Mais les mots, en fait, je trouve ça assez intéressant qu'ils viennent dans un second temps. Pour à la fois dire la limite des chiffres, et donc en fait c'est, il y a quand même une sorte de primauté des mots qui revient, où les chiffres ne suffisent pas, mais je trouvais qu'il y avait l'approche brute qui m'intéressait. Comme quand vous parlez d'Edouard Levet ou de Sophie Cal, je trouve qu'il y a de l'ordre parfois de l'expérimentation ou de la démarche, quelque chose qui est juste quand la démarche compte autant que le résultat. Et là, j'avais pas le livre précis en tête avant de l'écrire, et donc il y avait une démarche. Voilà, j'avais des partis pris, mais je savais pas exactement jusqu'où ça me mènerait.
On rentrera dans le détail au cours de cette émission. Olivier Rollin, c'est intéressant parce qu'il y a... Je pensais qu'il y avait une inquiétude chez Charlie Delward sur justement ces chiffres qui recouvrent peu à peu les mots, à cause de l'époque, grâce à l'époque pour certains, grâce pour ceux qui exploitent en tout cas ces datas. Mais il y a le même côté saut et gambade chez vous, Olivier Rollin, puisque dans Extérieur Monde, vous livrez aussi une forme d'autoportrait, une réflexion sur ce qu'a été votre vie, donc tout ce que vous avez fait aussi, vous listez, il y a un côté liste, mais en exploitant un certain nombre de données, d'autres données qui sont vos carnets. Alors, dans Extérieur Monde, on vous suit au cours de vos pérégrinations, on va en Terre de Feu, près du détroit du Magellan, où vous voyez une baleine, que vous appelez, j'aime beaucoup cette expression, un passant considérable. On est aux Açores, sur la piste du fameux anticyclone, on est dans la maison de Céline au Danemark, on est à Beyrouth, on revoit les îles Solovki que vous aviez racontées dans Le Météorologue, vous étiez venu dans cette émission d'ailleurs nous en parler. Et puis on revient dans le jardin de Luxembourg, où on attend avec vous une jeune femme russe qui vous rend fou. Vous nous faites voyager autour du monde, aussi entre les rangées de votre bibliothèque. On y trouve Proust, Pessoa, Laurie, Michaud, Borges, Flaubert, Céline. On a parfois l'impression d'être au-dessus de votre épaule quand vous écrivez, quand vous venez de dîner seul et que vous retournez à votre table d'écriture, de dîner seul et de dîner mal, mais ce qui ne vous empêche pas d'écrire. Et il y a une inquiétude aussi sur le sens des mots. C'est pour ça que je posais la question à Delward. C'est-à-dire que vous ne cessez de dire est-ce que tel livre dont je vous parle, ça sera lu? Est-ce que même ce livre-là, j'arriverai à l'écrire? Quelle est son utilité? C'est intéressant parce qu'il y a des données. Et les données, vous-même, vous les mesurez. C'est une trentaine, c'est 30 ans de carnet que vous avez tenu.
À peu près 60-70 carnets pendant 30 ans, oui.
Mais est-ce que cette question-là que je posais à Charlie Delward, est-ce que les mots ne suffiraient plus pour dire une vie, puisque vous vous posez sans cesse la question? Je vous parle de livres, mais est-ce que les gens les lisent aujourd'hui? Est-ce que c'est, il y a une inquiétude chez vous sur le...
Non, il y a une inquiétude sur le sort, sur le destin des mots, oui, bien sûr, spécialement des mots écrits. Mais en revanche, je crois, et je suis convaincu d'ailleurs que Charlie Delward le croit aussi, je l'espère en tout cas, il faut être convaincu qu'on peut tout faire avec les mots. Voilà, il faut être convaincu qu'on peut dire une vie, qu'on peut décrire la Terre entière, qu'on peut décrire un océan, qu'on peut décrire un visage, qu'on peut décrire un sourire, enfin voilà, que les mots un écrivain doit croire en leur toute-puissance. Bon, enfin, doit essayer de la susciter, en tout cas.
Il en a besoin aussi.
Il a besoin des mots et il a besoin de cet espoir-là, oui. Et voilà.
Mais il y a renoncé, vous y avez renoncé quand même.
C'est un pas de côté, mais je trouve que les mots servent à digérer le monde et que c'est à décrire, mais c'est à digérer aussi et que c'est presque un travail de...
Parce qu'à vrai dire, je dois dire, j'ai ri. Enfin, j'ai ri, non pas que j'ai trouvé ça ridicule, mais j'ai trouvé ça très marrant, votre bouquin-là. Mais en même temps, un des phénomènes contemporains que je trouve tuant, c'est l'omniprésence des chiffres. Quand on écoute n'importe quel bulletin d'information, etc., il n'y a que des chiffres, que des chiffres. Bon, les mots sont réduits à la portion
qu'on
veut.
Même dans la littérature, de plus en plus, les ventes de livres. Même dans la presse, disons, spécialisée, ou tout de suite l'ordre du phénomène, qui est moins des mots que des chiffres de vente.
Ouais, absolument.
Et ça vous inquiète, ça parce que c'est vrai qu'il y a constamment cet aveu que vous faites, c'est ce qui est très touchant dans ce livre, que vous êtes un homme du passé. Vous le dites, on peut le ressentir à n'importe quel âge, mais que ce qui faisait référence pour un certain nombre de gens, des pages de Borges, des pages de Pessoa, ne font plus forcément référence à l'ère, justement, de Homo Deus d'Harari, dont on parlait.
Mais c'est vrai qu'il y a un truc dans les datas, c'est la généralisation. Alors que tout ce dont vous parlez, c'est le particulier. C'est le particulier qu'on est allé chercher, on a voyagé pour voir quelque chose de précis. Et aujourd'hui, de toute façon, la démarche, elle est inversée. C'est-à-dire que je suis même pas sûr que ce soit... Alors, tout le monde est du passé, parce que la masse d'informations qu'on a à gérer aujourd'hui, elle est folle. Et donc, en fait, il y a déjà un premier travail de se dire, dans la nébulosité ambiante, comment est-ce qu'on arrive même à se donner une vision du monde, un sens du monde, mais qui est l'inverse du vôtre en allant le chercher sur place.
Quand même, Olivier Rollin, si je rappelle quelques chiffres, je rappelle que vous avez reçu le prix Féminin en 1994, pour Port-Soudan, le prix France Culture en 2003 pour Tigre en papier, le grand prix de littérature Paul Morand, là j'ai plus la date, mais en tout cas j'ai un chiffre qui va peut-être vous questionner, vous intéresser,
si on devait commencer... Le nombre total de livres que j'ai vendus, ben j'en ai pas...
Non, pas vendu, je vais pas tomber là-dedans.
Certainement pas aussi important que je le souhaiterais.
Mais si on devait commencer votre data biographie, on mentionnerait que vous avez écrit 30 livres.
C'est bien possible, oui, mais je ne peux pas vous le confirmer. Bon, je pense que je ne sais pas, c'est un chiffre rond, c'est pas si mal. Non, c'est 30. pas énorme, étant donné quand même le fait que je suis plus tout à fait un débutant. Je prends mon temps, quoi, pour écrire des livres.
Ou le nombre de kilomètres parcourus. Moi, c'est ça.
Ah oui, alors ça, en effet, je raconte dans le bouquin que j'écris je m'assieds de temps en temps devant mon ordinateur, mais sinon je passe mon temps à tourner en rond.
Et vous avez chiffré ça? Ben non, le nombre de kilomètres qu'il y a dans ce livre.
Ah oui, vous le dites au début du livre.
Oui, j'aurais dû chiffrer et stupidement, je ne l'ai pas. Parce qu'en plus, j'ai découvert récemment, mais je suis très mauvais tout ce qui est les petits appareils électroniques, là. Ça vous étonnera pas, puisque je suis un homme du passé.
Et moi aussi.
On m'a fait découvrir récemment que sur un téléphone, il y avait une fonction qui permet de mesurer le nombre de pas chaque jour.
Exactement.
Donc, en fait, j'aurais très bien pu mesurer exactement le nombre de pas que m'a coûté. Mais enfin, en général, un livre, c'est quand même, c'est quand même plusieurs dizaines de kilomètres quand même.
C'est ça. Non, mais en plus avec tous vos voyages. Merci en tout cas à tous les deux d'avoir accepté cette invitation. Je voulais faire dialoguer vos livres respectifs, car par-delà évidemment leurs différences, et pour commencer formelles, on en a parlé, ils procèdent tous les deux d'un genre, l'autoportrait, tout en affichant le refus de penser qu'on puisse maîtriser quoi que ce soit en la matière. Olivier Rollin, dès le début, vous annoncez au lecteur que vous voudriez que votre livre soit... pour vous-même, je vous cite, aussi imprévu, insolite, que ce cheval qui surgit de la brume, solitaire, sans cavalier. J'ajoute qu'il est en plus ornementé ou chargé de bidons de lait vides qui tintinabulent. Et vous, Charlie Delwart, vos chevaux qui tintinabulent, ce sont justement les chiffres à qui vous confiez le soin de dire qui vous êtes. Et je voulais vous demander... parce que vos deux livres renoncent à la figure de l'auteur démiurge. En fait, le cheval, il vous emmène, Olivier Rollin, et les chiffres, ils vous emmènent aussi, ils sont là, en tout cas. Et même si ce n'est que métaphoriquement, pourquoi vous confiez à d'autres le soin de dire qui vous êtes, finalement?
D'abord, je vais citer un autre très grand Belge, à savoir Michaud, qui dit il n'y a pas de je, il n'y a pas de moi, il y a des millions, on a à l'intérieur de nous-mêmes des millions de, non pas de spermatozoïdes, mais de moi. Bon, et il dit, je ne sais plus à propos de quel livre, je crois que c'est un barbare en Asie, il écrit ce livre au nom d'un mouvement de foule. Enfin, bon. Donc on est un mouvement de foule. Voilà, l'idée qu'on est une singularité, une personne comme ça, avec son histoire. histoire bien linéaire, etc., est une idée à la con. Enfin, voilà. Enfin, jamais l'idée ne me serait venue d'écrire des mémoires ou d'écrire même un autoportrait. Enfin, je trouve ça vain.
Mais c'en est un.
Oui, non, alors c'en est un par accident, d'une certaine façon. C'est-à-dire que ce que je voulais vraiment, c'était en effet faire une mosaïque avec des centaines ou plus d'éclats, voilà, de scènes dans le monde, de visages, de paysages, etc. Et puis après, j'ai bien été obligé de m'apercevoir que, puisque c'est toujours moi qui voyais ces paysages, qui rencontrais ces visages, etc., bon, mais comme ça, par pointillisme, ça finissait par dessiner quelque chose comme un autoportrait. Mais c'était pas du tout mon dessin initial, quoi. Et c'est pourquoi, dire, en cours de route, j'ai pensé à cette citation de Borges, qui parle d'un homme qui se fixe la tâche de dessiner le monde, qui passe sa vie à dessiner des montagnes, des mers, des bateaux, des villes, etc. Et à la fin, il s'aperçoit qu'il a dessiné son visage. Bon, voilà. Mais c'est à la fin. Borges dit peu de temps avant de mourir. J'espère que ça n'est pas le cas en ce qui me concerne.
Et vous, Charlie Delwart, en fait, voilà, de confier, voilà, de se dire là, je vais abandonner. Il y a des mots, mais je vais abandonner ça pour des formes, parce que ça dessine des formes aussi.
L'idée de faire une biographie à 44 ans sans fait saillant est déjà une balle dans le pied, en fait. Donc c'est pour ça que c'était vraiment pas une entreprise égotiste. L'idée, c'était de me dire, indépendamment de moi, c'est qu'est-ce qui définit quelqu'un? Ou est-ce que les chiffres peuvent servir ou être un biais pour approcher ça? D'autant plus dans une vie qui n'a pas de fait saillant, qui n'a pas rien à raconter.
Ça fait deux fois que vous le dites. Pourquoi sans fait saillant, on peut faire épopée d'une marche dans les rues de Paris ou de Bruxelles ou de la naissance d'un enfant? Vous en avez trois. C'est déjà trois grandes épopées.
Je pourrais faire Sylvain Tesson à l'intérieur des rues de Bruxelles.
Par exemple.
Oui. Mais non, en fait, l'idée, c'est de... Oui, non, il y a quelque chose de cet ordre-là, de se dire 44 ans,
c'est déjà une vie. Chacun sa panthère des neiges. ou du bitume.
Et moi, ce serait un petit rat derrière, caché derrière une poubelle dans le deuxième arrondissement. Et non, mais plus sérieusement, c'est que...
Je trouvais
que 44 ans, c'est déjà une vie. Et qu'en fait, une vie lambda, et c'est ce qu'on partage, en fait. Ce côté, nous sommes des millions d'individus. Et il y a des millions d'individus en soi, mais on est parallèlement soi l'incarnation de... Alors là, il y a un côté homme urbain occidental, 44 ans. Je me suis dit, tiens, qu'est-ce qui peut servir de matrice où d'autres pourraient s'y retrouver? Ou justement, voilà, ce côté...
Mais une petite question, les chiffres sont venus, c'est-à-dire que vous avez commencé à écrire après avoir les chiffres, ou est-ce que l'écriture a provoqué aussi une demande de chiffres?
Alors j'ai commencé par lister des ratios, et puis après ça je me suis dit quels chiffres vont avec ces ratios, donc je les ai calculés, j'ai trouvé des petites formules pour arriver à être au plus juste dans les masses.
Pardon, comment? Parce que le nombre de cigarettes fumées, etc., moi je serais bien incapable de le dire.
Bon. Tant de contacts.
Il y a une application aussi.
Ouais, les cigarettes, je trouve ça plus simple, je connais ma consommation depuis l'âge de 17 ans, je peux savoir combien j'en ai fumé, donc je peux savoir comment ça a varié ou non. Combien de temps j'ai tenté d'arrêter de fumer.
Le nombre de fois où je me suis mis en colère, par exemple.
Un autre exemple. Le nombre de fois où le contact annulé avec mes parents. Donc j'ai demandé à ma mère combien de temps j'avais été allaité. Je crois qu'elle s'en souviendrait pas. Et justement, elle s'en souvenait. Elle a dit, j'ai mis le même temps d'allaitement pour tout le monde. Comme ça, personne ne sera jaloux après. Donc du coup, de cette investigation de chiffres naît...
Mais sur la colère, par exemple, vous demandez, Olivier Rollin.
Sur la colère, alors je peux arriver... Alors, comme la démarche a pris aussi d'écriture du livre, j'ai recalculé tous les chiffres après l'écriture qui a eu lieu sur un an. Donc du coup, je pouvais, pour certaines choses, avoir des mesures. Le nombre de fois où je dis merci par jour, je me prends quelques jours test ou une semaine test et je regarde combien de fois je dis merci et non merci. Mais l'important, c'est ma capacité à dire souvent merci. Ou par exemple, il y a ce que j'ai volé dans ma vie, c'est très peu au nombre de bagarres. C'est-à-dire, ce que je mesure là-dedans, c'est mon faible taux de délinquance.
Mais c'était justement agréable, intéressant, dans cette démarche d'écriture, de, si je reprends l'image du cheval qui surgit avec ses bidons de lait vides et qui, en fait, sans cavalier, donc avec une sorte de sauvagerie et de désordre qui va construire un ordre, mais en tout cas, de désordre fécond, je dirais, cette masse de chiffres, c'était agréable de se laisser justement de peut-être d'abolir toute démiurgie d'auteur pour se dire, voilà, j'ai été d'abord gouverné par des faits, ma vie a été gouvernée par des faits, je vous les donne, et c'est ça qui fonde le livre.
En fait, le plus troublant dans l'écriture du livre, c'est de se dire quel chiffre importe. C'est-à-dire qu'une fois que j'ai éliminé une cinquantaine de ratios qui ne me servaient à rien, mais dans une approche circulaire, je me dis certaines choses doivent en faire partie, comme par exemple mes dents. D'un côté, on s'en fiche de mes dents, mais d'un autre côté, elles font partie d'une recension globale. Et c'est la même chose pour les textes. Qu'est-ce qui est de l'ordre de l'anecdotique ou de l'essentiel? Donc j'ai pris comme parti pris de me dire que chacun a une petite playlist d'anecdotes qui raconte comme ça sur l'ordre du quotidien, et que si ça lui reste en tête, c'est qu'il s'est joué quelque chose vraisemblablement d'important pour lui, même si le souvenir est fugace. Prends un bête exemple, c'est le « j'arrive pas à toucher mes pieds, et pourtant je suis dans une école où on me dit à maman, si vous touchez pas vos pieds, vous avez pas la moyenne ». Donc c'est une découverte de l'arbitraire. L'idée, c'était d'épuiser, donc de trouver une manière de mettre ces années-là derrière.
Vous partagez ce serait une belle définition aussi de la littérature. Vous avez dit « découverte de l'arbitraire » aussi pour tous vos voyages, André Rollin, parce que ce qui me fascine dans vos deux livres, c'est leur grande matérialité. C'est-à-dire qu'il y a les chiffres qui forment des graphiques et des formes esthétiques, en fait, dans votre livre, Charlie Delwart. Et il y a toute cette matérialité, disons, souterraine dans votre livre, les billets d'avion dont vous parlez, effectivement, les paysages. Et on pourrait presque, en fait, dépasser le livre. En fait, on pourrait prolonger vos livres, par exemple, par des expositions, par des installations, en fait.
J'y pensais à l'instant, oui. Ouais. J'espère que c'est une idée qui sera reprise. Oui. En tout cas, je veux dire... Paradoxalement, je suis pas du tout un fanat des voyages. Enfin, je veux dire, par là, je suis pas... j'ai toujours résisté à repousser l'idée que j'étais un écrivain voyageur ou un écrivain de voyage, etc. Je suis un écrivain, et puis il se trouve que je voyage, et il se trouve que c'est beaucoup à l'origine de mon écriture, mais pas systématiquement. En tout cas, dans le voyage, ce qu'il y a d'intéressant, c'est précisément de se heurter au concret, à la matérialité,
à
l'inattendu, à l'insolite, enfin à l'insolite, pas forcément, oui, mais à l'insolite.
Mais les billets d'avion que vous dépliez dans vos carnets, par exemple.
L'insolite, c'est pas forcément la panthère des neiges, c'est simplement, en effet, je sais pas, une manière de manger qui est différente. Oui, même un billet d'avion sur lequel il est écrit, c'était en portugais, donc il est, au lieu d'être écrit la ligne aérienne, ligne aérea, c'est écrit à Ilha aérea, l'île aérea.
Rien que ça, c'est une
espèce de poème, quoi. Mais en tout cas, c'est de rencontrer toutes ces choses petites, pas forcément, en général, pas très spectaculaires, et qui changent complètement, quoi.
Notre regard. Comment on est soi ailleurs, en fait.
Parce que je
perçois ce livre, en fait, moi j'avais beaucoup aimé La Mention du Monde, et je trouve que c'est presque le pendant où on a changé les axes. Ouais. C'est-à-dire qu'au lieu d'être à la même minute ou la même journée dans le monde entier, on est la même personne dans le monde entier, mais c'est juste qu'on a inversé l'axe du temps.
Oui, tout à fait.
Oui, il y a un jeu, livre de 93, c'est ça. Charlie Delwart, dernière question, avant de plonger encore plus dans vos livres. Data biographie, en fait, il y a data qui se rajoute, mais je disais, c'est aussi un autoportrait, on a enlevé auto, et je me demandais ce qui restait d'une littérature autobiographique, parce que c'est lié à la littérature autobiographique, donc je me suis demandé ce qui restait d'une littérature autobiographique quand elle est dépourvue du retour sur soi qu'implique justement ce petit auto qui là a disparu. Est-ce que c'est aussi le moyen, ce livre-là, de signer la fin d'une forme de littérature et l'arrivée vers une autre forme de littérature ?
J'aurais du mal à répondre à cette question parce que je me demande toujours ceux qui font une autobiographie, pourquoi ils la font. Et moi, j'ai cherché plus à me dire que c'est de faire une biographie à travers ce qui nous relie, ou qui peut aussi ce qui nous différencie. Mais c'est-à-dire que c'est de nouveau, c'est plus une recherche des outils qu'une recherche du fond derrière.
Qui nous relie à qui ?
Les uns les autres, en fait. Mais c'est-à-dire que c'est l'important n'est pas de mettre un fait de ma vie en avant ou de dire voilà ma conception ou de retracer. Alors il se fait que parallèlement à ça, ce travail-là permet, parce que je donne des chiffres à 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, de tirer des fils. L'équivalent pour moi, ce serait en fait de faire un livre sur sa psychanalyse sans jamais aborder le fond, mais que la forme. C'est-à-dire comment structurellement on en arrive ou par quel biais on passe. Pour moi, c'est ce qui importe aujourd'hui. Enfin voilà, c'est plus ça passe par des données, en fait. Mais ces données, bon là, elles sont chiffrées, mais ça passe aussi par cette compréhension, en fait, des possibilités.
Et ce côté installation dont je parlais tout à l'heure, justement, à propos d'Olivier Rollin.
J'adore l'art contemporain. Ouais. Je trouve qu'il y a des gens qui font des œuvres éminemment intelligentes et sérieuses, et à la fois, il y a un sens de l'autodérision. Je pense à des gens comme Mauricio Cattelan, moi, j'aime beaucoup ces œuvres-là, ou Olafur Eliasson, qui a des consciences écologiques, mais à la fois, ça passe par des expériences intuitives. Moi, j'aime beaucoup ça. Je trouve que le travail des idées, et donc Edouard Levé.
Il y a un aspect graphique aussi, énormément. On n'en a pas.
Mais même dans le travail d'Edouard Levé, quand il a fait œuvre et qu'il y a plein de plasticiens qui sont parfois en manque d'œuvre et qu'il en livre 200 qui sont vachement bien je me dis, voilà, moi j'aime le côté générosité aussi qu'il y a dans l'art contemporain.
Ouais. On continue avec vous, Charlie Delwart et vous, Olivier Rollin. On va commencer par Extérieur Monde. On écoute d'abord votre choix musical. Vous avez, alors c'est drôle, puisque vous m'avez dit, puisqu'on a même droit à de la musique d'Asie centrale, c'est vrai.
J'étais heureux de
voir qu'on avait cette licence. Nous aussi, on est heureux. Donc on va écouter Altay Maktaal, Praise of the Altai Mountains, et vous nous expliquez pourquoi vous avez choisi, c'est le groupe Altai Kharkhan, c'est comme ça ?
Kharkhan, oui.
Kharkhan, voilà, voilà.
Je suis pas très fort en mongol.
C'est mieux, c'est beaucoup mieux, on écoute.
France Culture, le temps des écrivains, Christophe Onodibio.
Alors c'est le groupe Altai, comment vous prononcez ? Voilà, magnifique accent d'Olivier Roland.
J'imagine que c'est comme ça que ça se dit.
Altai Magdal, ça c'est le titre, Praise of the Altai Mountains, donc les louanges, éloges
de l'Altai. Oui.
Voilà, c'est votre choix Olivier Rollin, vous publiez Extérieur Monde chez Gallimard et on est avec vous pendant cette heure et avec Charlie Delward qui publie Data, biographie chez Flammarion. Pourquoi ce choix musical
Parce que tout de même c'est un certain rapport avec mon livre, dans la mesure où c'est une musique géographiquement très lointaine et en plus assez loin quand même des canons de notre musique. Bon, que moi je trouve ça très beau, évidemment assez mélancolique, mais je ne suis pas dépourvu de mélancolie.
Ah non.
La première fois que j'ai entendu, en fait, c'était pas du tout en Mongolie ni sur les confins de la Mongolie, c'était sur le parvis de Beaubourg. Et où il y avait, je crois précisément, ce groupe-là qui jouait. C'était sous la pluie. Je suis resté sous la pluie une demi-heure à les écouter jouer parce que j'étais absolument fasciné. Quoi.
Et vous êtes arrivé en Mongolie, vous êtes tombé sur eux à nouveau.
Alors, Extérieur Monde. Et puis il faut que vous nous expliquiez aussi ce livre. C'est un grand voyage. C'est un grand livre. C'est une grande mélancolie à l'œuvre. On est avec vous. D'abord, on est avec un écrivain qui ne sait pas s'il va réussir à écrire ce livre. Et on parlait tout à l'heure de cette image qui ouvre d'ailleurs la première page, de ce cheval sans cavalier, un peu errant, avec des bidons de lait vides qui tintinabulent. Un côté aussi presque goyesque, même grotesque aussi au sens propre du mot. Et c'est lui qui ouvre ce livre où on va se promener à travers 30 carnets de voyage. 30 ans en fait.
Oui,
voilà.
30 ans. Voilà.
Les chiffres sont importants dans cette émission. Vous voyez que finalement, il y a de la data finalement dans votre livre.
Mais je ne sais pas combien de mots il y a dans les 60 carnets.
Exactement, il faudra y travailler. Et qui vont nous emmener à travers vos voyages, à travers vos livres, à travers des visages qui sont convoqués, à travers des billets d'avion, à travers des paysages, du détroit de Magellan où vous voyez une baleine, aux Açores où vous traquez ce fameux anticyclone au sommet d'un mont où il y a une station météo, qui est un motif qui revient souvent dans vos livres, Olivier Rollin. Dans la maison de Céline au Danemark, même si vous n'aimez pas particulièrement les maisons d'écrivains, à Beyrouth, à Magadan, aux îles Solovki, dans une cité aussi lacustre du Brunei.
Ah oui, oui.
J'ai regardé Bandar, les photos, du coup, je suis allé voir.
Enfin, la capitale,
Bandar Meyer, c'est ça?
Non, la capitale, c'est Bandar Seri Begawan. Et le truc, je crois que ça s'appelle Kompong Ayer. Enfin,
Kompong Ayer. Les îles Solovki, aussi magnifiques, que vous aviez racontées dans le Météorologue. Magnifique, mais à l'histoire très très chargée, puisque ça a été un goulag. Et puis, le jardin du Luxembourg, où il y a une jeune femme russe qui vous rend fou de passion. L'écriture est toujours en mouvement et ne répond pas d'ailleurs aux règles de composition ou d'efficacité d'un livre bien fait, comme on dirait, d'une pièce qu'elle est bien faite. C'est pas du tout ce qui vous intéresse.
D'un rôti qui est bien cuit, oui.
Voilà, ou d'un rôti. C'est pas du tout ce qui vous intéresse. pas d'efficacité.
Non, pas du tout. Ouais. Non, si, j'espère trouver une efficacité, mais je veux dire, ça sert à rien de, enfin, c'est désespérant de se mettre dans des sentiers déjà mille fois parcourus, etc. Je suis pas du tout un formaliste, enfin, je cherche pas la bizarrerie, j'espère trouver une efficacité autre que celle d'un bon vieux roman, etc.
Je précise, quand je dis refus de l'efficacité, c'est que sans cesse, dans le livre, je dis ça pour les auditrices et pour les auditeurs qui n'auraient pas encore lu ce très bon livre, que vous dites, bon, voilà, je sais pas, il y a le côté Jacques le fataliste et son maître. C'est-à-dire, voilà, je sais pas si je vais finir. Parfois, vous arrêtez, stop, on arrête les conneries. Enfin, il y a ce côté-là.
Oui,
donc, il y a un jeu avec ce refus de l'efficacité du livre et du rôti dont on parlait.
C'est comment dire... J'ai pas voulu mettre en scène l'écrivain écrivant, etc. C'est pas ça. C'est que j'étais vraiment dans une très grande incertitude quand je commençais à écrire ce livre. Je savais pas du tout où ça allait me mener. C'est vrai. Quand je dis c'est un cheval sans cavalier, et très franchement, je donnais pas cher de mes chances.
De ma
peau. Voilà. Et puis progressivement, voilà, ça s'est fait. Mais je n'ai pas pu m'empêcher de mettre en scène mes doutes. Oui, moi tournant en rond, moi me disant mais où je vais, moi me disant mais qu'est-ce que je suis en train d'essayer de faire. Enfin, voilà, c'était comme ça. C'est un livre qui m'a mené plus que je ne les mener.
On vous écoute lire un extrait, Olivier Rollin, justement avec un mot, on parlait de fait saillant, un mot saillant, qui est le mot digression. Voilà, on est page 69 du livre.
Lors d'une précédente digression, ce que j'écris, quoi que ce soit, pourrait s'appeler ainsi, digression, se recommandant non seulement de Sterne inévitable dès lors qu'il s'agit de divagation, mais encore de notre Montaigne. Je m'égare, mais plutôt par licence que par mégarde. Mes fantaisies se suivent, mais parfois c'est de loin et d'une vue oblique. Lors d'un précédent écart, donc, j'ai cité le cimetière des Lots et auparavant même du Lecomte de Lisle. Ces œuvres d'une poésie devenue surannée qu'on nous apprenait à l'école, pourquoi le retrouve-t-on en vieillissant quelques charmes anciens? Moi, en tout cas. Et pas seulement moi. J'ai, comme beaucoup d'autres, entendu Pierre Michon réciter « Beaux endormis ». C'est l'occasion d'une telle récitation qui est à l'origine, si je me souviens bien, d'un des récits de lui que je préfère, Le ciel est un très grand homme. C'est par ces grands hymnes que nous, ma génération encore, avons d'abord eu accès à la splendeur de la langue. Je sais bien que pour reprendre le titre d'un autre ami écrivain, notre époque est celle de la fin de l'hymne. Avec cet ami, soit dit en passant, nous avons failli en venir aux mains un soir à Saint-Pétersbourg où il me soutenait qu'écrire en alexandrin au XXe siècle faisait de vous un tocard. Il est vrai que la vodka nous échauffait et a peut-être un tant soit peu gommé dans mon esprit l'objet du différent. Je le sais bien et c'est parce que je crois aussi à ma façon, moins théoricienne, moins érudite, plus intuitive, à l'obsolescence de certaines formes littéraires, et non seulement de ces formes mais de l'esprit qui les animait, que je rejette l'idée d'écrire des mémoires ou des souvenirs, que j'essaie d'inventer une façon éclatée et inversée d'écrire, partant en quelque sorte de l'extérieur. Autant que je sache, le terme d'antimémoire est déjà pris. Je ne suis le centre de rien, même pas de mes récits. Je voudrais m'en tenir à cette éthique d'écriture.
Merci Olivier Rollin, Extérieur Monde, c'est la profession de foi.
Oui, c'est un petit peu abstrait ce que je viens de lire, j'espère que ça n'est pas rébarbatif pour le...
Abstrait,
pour
non, le, au non. contraire, vous parlez de livres,
oui,
vous parlez de vous, vous parlez de ce que c'est que d'écrire,
de façon un peu théorique,
du métier. Oui, oui. Est-ce que c'est un métier, je disais tout à l'heure, le métier d'écrire? Vous considérez ça comme un métier?
Non, j'ai jamais considéré ça comme un métier. Enfin, je pense que très peu d'écrivains, sauf peut-être ceux qui produisent à la chaîne, etc., mais considèrent ça comme un métier. C'est pas une chose où on peut dire qu'on progresse. Enfin, ça peut arriver, on apprend des trucs, mais... Enfin bref, on fait pas de carrière, en général. Non, c'est pas un métier. Je me souviens de la première fois où j'ai... Quand j'étais à l'étranger, où il y avait les fiches d'hôtel et où on met profession. Bon. Et alors, je mettais n'importe quoi, enseignant, éditeur, des choses comme ça, etc. Puis un jour, je marquais writer, bon, écrivain. Mais j'ai l'impression de commettre quelque chose comme un impair, quoi.
Le passage qu'on vient de lire, donc il y a ce mot très important, digression, hein, sur lequel vous insistez. Hein. En plus, vous êtes latiniste, helléniste aussi. L'origine des mots a une importance.
Oui, c'est ça encore qui fait de moi un homme du passé. Oui.
Oh, ça revient. Mais quelle a été la méthode, justement, pour écrire ce livre, où vous le dites, hein, dans le passage qu'on vient de lire, il y a la recherche d'une forme qui ne serait pas, justement, une forme traditionnelle, ce qui vous réunit, d'ailleurs, Charlie Delwart et Olivier Rollin. Comment vous avez procédé, en fait? Il y a ces 60 carnets, ces 30 ans.
J'ai procédé un peu à la façon que je décris de ce jeune Égyptien qui, dans une fouille à Saqqara, les archéologues déversaient devant lui. Il était assis sur le sable et devant lui, il y avait une grande bâche et on déversait des centaines de tessons de vases, voilà, qu'on avait trouvé en bas dans la fouille. Et lui restait là, on allait contempler longtemps, à réfléchir, etc. Puis tout d'un coup, il se jetait presque, enfin sur trois ou quatre, et puis hop, il les mettait ensemble, et c'est un puzzle, quoi, et ça marchait. Et à la fin de la journée, il avait reconstitué ce qu'on pouvait reconstituer du vase. Et ben c'est un peu comme ça que j'ai procédé, c'est-à-dire que j'ai relu tous ces carnets, j'ai vu qu'il y avait des centaines, enfin de scènes, de lieux, de visages, d'impressions, quoi, qui me semblaient avoir quelque chose. Et puis je les ai disposés devant moi, enfin j'avais tous mes carnets devant moi, j'avais fait un peu, et puis j'ai essayé de coller ça, de faire, en ayant en tête qu'il fallait jamais que le collage soit absurde. J'allais pas faire un monstre avec un corps de crocodile et une tête de cheval.
Une chimère.
Oui, une chimère. Mais je voulais en même temps que ce soit complètement vertigineux, enfin déroutant.
Alors, quelle forme il a, ce livre, pour vous, si vous deviez le résumer en une image, justement, puisqu'il y a beaucoup, beaucoup d'images qui sont convoquées dans ce livre.
Je sais pas, ça pourrait être un. Enfin, là, vous me.
Je trouve que c'est une chimère. C'est pour ça, oui, c'est ce qui me plaît, le fait que ce soit une chimère.
Un corail, enfin un massif, un madrépore, quoi, comme ça, avec des, qui est un être vivant, mais qui est aussi des centaines d'êtres vivants, on ne sait pas très bien ce qui les relie. Ce serait plutôt ça.
C'est pas mal, c'est une belle image. C'est un livre qui convoque énormément d'écrivains, énormément. C'est un livre bibliothèque aussi, hein, on se promène chez Borges, chez Céline, chez Hugo, d'ailleurs, Hugo, que vous terminez Les Misérables au pôle Nord, il y a toujours un décalage. Bouvier, que vous aviez lu, alors justement, il y a un jeu peut-être extérieur monde, l'usage du monde.
Oui, mais c'est. Voilà. À vrai dire, s'il y a plusieurs titres que j'aurais pu donner à ce livre, évidemment, l'usage du monde aurait été le meilleur. Ouais. Mais bon, c'était déjà pris, quoi.
Un livre que vous avez lu assez tard, hein,
très tard, parce qu'on bassinait tellement en me disant, mais comment tu n'as pas lu l'usage du monde que ça finit par être répulsif, quoi. mais un jour, je suis tombé sur ce livre à Douchambé, donc assez loin, au Tadjikistan, et là, je me suis dit, bon, il faut le lire.
Et c'est un livre aussi qui est plein de veaux. Livre. Et notamment, vous le citiez d'ailleurs, Charlie Dalwart, tout à l'heure, L'Invention du Monde, qui est un livre en fait où vous racontiez en fait en 500 scènes, un même moment.
Une journée sur la planète entière.
Et au fond, c'est ça. Vous réécrivez avec Extérieur Monde.
J'essaie de refaire une espèce de portrait du monde, mais celui-ci est complètement subjectif. Celui-ci est étalé dans le temps, c'est-à-dire il y a 30 ans de pérégrination dans le monde, et puis c'est toujours vu à travers moi, tandis que l'invention du monde, c'était un regard, le regard d'un dieu, quoi. Enfin, d'un démiurge ou d'un satellite artificiel qui fait le tour du monde en quelques heures.
Est-ce qu'il est fatal et souhaitable que les livres d'un même auteur se répondent, au fond, dans son œuvre?
Je crois qu'il est fatal qu'il y ait tout un système d'écho, de reflets, etc. Enfin, c'est inévitable, c'est même plutôt souhaitable, d'ailleurs. Mais en revanche, moi, je crois qu'il ne faut pas qu'il se ressemble, qu'il faut qu'il soit toujours extrêmement différent. Et très, je ne sais pas si c'est une qualité. Enfin, on peut trouver ça une qualité ou un défaut, mais je suis sûr que je n'ai jamais fait deux livres qui se ressemblent. Mmh. Voilà. Mmh. Qu'ils soient bons ou mauvais, mais
qui ont des échos.
Il y a des échos, bien sûr, voilà, il n'y a pas d'échos. Oui.
Je voudrais citer juste un passage pour qu'on voit aussi la tonalité, puis vous poser une question peut-être sévère, mais nécessaire. En tout cas, elle est sincère et elle touche vraiment ce que c'est que la littérature, en tout cas, pour beaucoup de gens. Page 37, stop. Ça va continuer longtemps comme ça? Musez toi-même. Tout d'un coup, je m'ennuie. Je m'ennuie moi-même, alors vous qui me lisez, est-ce que par hasard j'aurais entrepris de raconter des souvenirs bien léchés, bien construits, littéraires, l'un s'enfilant dans l'autre, collier, couronne mortuaire, etc., etc. Comment vous avez fait? Est-ce que vous êtes même posé la question? Après ces 30 livres, le fait que vous égreniez aussi tous ces souvenirs qui proviennent de vos carnets, pour ne pas justement tomber dans le piège du musée. C'est le mot que vous utilisez là. C'est-à-dire le livre, j'allais dire, d'anciens combattants, et combattants pour vous est bien choisi, puisque vous avez aussi, pendant votre jeunesse, été un combattant révolutionnaire. Et le livre n'est pas ça, mais qui ne livrerait pas ses souvenirs, justement, avant de tirer sa révérence, parce que tirer sa révérence, l'expression est aussi dans le livre. Oui. Est-ce que vous êtes posé la question ?
Oui, bien sûr, oui. Justement, je fuyais cette idée, pour moi, dégoûtante, de faire, de déverser mon petit sac de souvenirs, de me dire, de prendre à témoin les lecteurs, en disant, ben voilà ce qu'a été ma vie, etc. Tout ça, pour moi, est répugnant. Enfin, c'est bien quand c'est Chateaubriand et que c'est dans une autre époque, mais maintenant, je trouve ça déplaisant. Enfin, en tout cas, mon obsession, c'était, vous avez lu ce passage où je dis musée toi-même. Mon obsession, c'était de brouiller tout, de bouleverser tout, de surtout pas faire une histoire chronologique ou thématique. Bon, en effet, je commence à parler d'une maison d'écrivain, de la maison de Nabokov, et puis là-dessus, je passe à la maison où je passe à des souvenirs sur Kafka. Mais non, je vais pas tout d'un coup me mettre à parler des écrivains pendant 30 pages. Enfin, il faut qu'aussitôt après ça, on passe n'importe quoi à des curés croates en train de manger des escargots dans un bistrot en terre de feu. Enfin, voilà, il faut que ce soit complètement kaléidoscopique, bordélique, quoi, si je puis dire.
Alors, et naturellement, donc vivant.
Naturellement, il y a quand même une architecture sous ce bordel, mais enfin, il faut que ça apparaisse comme cela. C'était ça mon...
Avec un peu le but de dire tout ça a lieu.
Ah, tout ça a eu lieu, bien sûr. Ouais.
Mais a lieu, comme si ça avait lieu maintenant.
Ah quoi. Oui, comme si ça avait lieu. Oui, je voulais absolument pas non plus qu'il y ait de passé. Ouais. Je voulais que ce soit presque tout au présent et qu'on puisse pas, qu'il n'y ait pas de date, quoi. Que tout ça se mélange.
Même si le temps passe, et on le voit justement, parce que les femmes sont très très importantes aussi, vous en revoyez une.
Oui.
Des décennies après. Oui. Mais elle n'a pas changé. Beaucoup, beaucoup de très beaux portraits de femmes. Charlie Delwart, Olivier Rollin dit de la littérature, enfin de l'écriture d'ailleurs, que c'est faire de la beauté avec les mots, il fallait pour vous compléter ça. Faire de la beauté avec des mots et des chiffres et des figures et des graphiques.
Non, mais pour moi, vraiment, je reviens à ce que je disais tout à l'heure, la littérature, c'est vraiment des enzymes, quoi. C'est un truc qu'on mêle à soi et qu'on mêle dans sa vision du monde pour essayer d'en avoir quelque chose d'intelligible et de palpable, en fait. Et de nouveau, quand tout ça a lieu, c'est que, et d'autant plus aujourd'hui, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que l'information éclatée et l'abstrait des choses redemande du concret. Et je trouve que plus le monde deviendra éclaté, plus on aura besoin d'enzymes littéraires.
Exactement. Beaucoup de... Et besoin de visage aussi. On va écouter, parce que c'est important, Charlie Delwart, formellement aussi, votre choix musical par rapport à Data Biographie. Vous avez choisi Charlie Delwart de nous faire écouter Bach par Glenn Gould, les French Suites et la suite numéro 1 en ré mineur. On écoute.
France Culture, le temps des écrivains, Christophe Onodibio. Thank you.
Bach par Glenn Gould dans les French Suites. C'est la suite numéro 1 en ré mineur et c'est le choix de Charlie Dalwart qui publie Data Biography chez Flammarion. Pourquoi avoir choisi ce morceau musical? Vous dites que c'est un artiste que vous écoutez souvent. D'ailleurs, Glenn Gould et Bach.
Oui, parce qu'en fait, bon, le côté mathématique de Bach, je le trouve très structurant. Et il y a un passage que dans le livre où je trouve que si le cerveau était une plante, la musique de Bach serait comme des tuteurs qui la maintiendraient droite. Et je trouve que c'est assez utile d'avoir des musiques rythmiques pour ça. Et puis, c'est des musiques que je mets en boucle, et notamment, et que jouées par Glenn Gould, de manière à abolir le temps, en fait. C'est-à-dire que d'autant plus quand cette musique est qu'au piano, vous avez moins le repère sonore, vous retrouvez des mélodies, des morceaux, des motifs. Mais donc moi, je mets ça toute la journée. Et je trouve que par-delà ça, Glenn Gould, qui chantonne, il y a toujours avec sa vieille chaise qui grince, qui transporte partout, qui est de plus en plus sonore à mesure de ses voyages, est une personne que je trouve qui me fascine, qui a arrêté de donner des concerts parce qu'il trouvait que la qualité d'écoute n'était pas assez bonne. Donc autant faire des enregistrements, qui passait son temps à faire des tours de périph dans sa voiture avec le chauffage à fond et qui, je sais pas, je trouve qu'il y a une sorte d'incarnation de la musique comme j'ai rarement vu ailleurs.
Alors, Data Biography, on en a parlé tout à l'heure, on le redit pour celles et ceux qui nous rejoindraient maintenant, se présente comme un essai, disons, autobiographique, mais par l'intermédiaire de data, de graphiques, de courbes qui disent aussi bien l'argent que vous avez dépensé chez votre psychanalyse en le liant à d'autres domaines, c'est-à-dire qu'avec cet argent, combien de mètres carrés vous auriez pu acheter, par exemple, à Paris, à Shanghai, à Hong Kong ou ailleurs, tout ce que vous avez ingéré en termes de pizza, de cigarettes fumées, comment vous avez aimé aussi, il y a tout un chapitre sur la sexualité, et vous parliez tout à l'heure des ratios qui vous ont amené à écrire ce livre. Vous avez commencé à lire ce livre, enfin à avoir l'idée de ce livre en lisant Homo Deus.
Oui, c'était sur les ratios, sur comment deux chiffres comparés donnaient une sorte de vision très claire et très immédiate des choses. Et donc j'ai vraiment conçu le livre comme il y a 153 graphiques qui sont comme des planches d'anatomie. C'est comme une sorte de codex, c'est à mi-chemin entre le codex de moi-même et la notice IKEA sur comment fabriquer un Charlie Dalwart, qui n'est pas non plus d'un enjeu fou, mais c'est surtout de comment arriver à se dire qu'est-ce qui définit quelqu'un et qu'est-ce qu'on peut trouver comme masse ou comme ratio qui laisse la porte à deux choses, c'est qu'à la fois à donner de la réalité, de l'objectivité, et à la fois à tout ce que les chiffres ne peuvent pas donner. Justement, on reparle des mots et des chiffres. Donc moi, j'estime que c'est une démarche où derrière, les mots ont repris le dessus.
Oui, parce qu'il y a des mots aussi, hein, pas seulement pour légender les graphiques.
Oui, qui sont des notes, qui sont des choses, mais qui sont au bout du compte, je trouve qu'à mesure que le livre avance, il y a un dernier texte qui est comme une sorte de ce qu'il y a à retenir, en fait, de ces 44 ans, où il y a un truc un peu testamentaire. Moi, j'avais toujours l'impression avant que j'avais toujours peur de mourir avant de terminer un livre. Et là, je voulais faire l'inverse, un livre où j'avais mis, si je me rappelle, après, c'est pas grave.
C'est votre musée personnel, on en parlait tout à l'heure, cette image du roman musée qu'il faut pas faire, hein, vous nous disiez, Olivier Rollin. Votre musée, votre cabinet de curiosité, on avait dit.
Oui, cabinet de curiosité, c'est mieux, hein. Avec la disparate qu'il y a dans la notion, ça me plaît assez.
Ouais. Oui, ce mot-là aussi me plaît assez sur le côté comment, en fait, parce que dans le cabinet de curiosité, il y a tout ce qui s'écarte de la norme, en fait. Et je trouve que la vie entière est cette manière de se dire où se plaçant par rapport à la norme. À 44 ans, avec des enfants, je suis à la fois dans un moment de ma vie beaucoup plus pulsif, où passer la psychanalyse, j'ai le droit de renouer avec... Il y a un graphique sur la place du ça, du moi et du surmoi à différents âges de ma vie. Je retombe dans un fonctionnement qui est beaucoup plus enfantin, mais en tout cas où le ça est beaucoup plus libre, beaucoup plus présent, alors que parallèlement j'ai des enfants et donc je dois vraiment à fond jouer la carte du surmoi. Donc je trouve que le cabinet de curiosité est un moment où on se dit tiens, voilà, dans ce qui se joue de nos vies, qu'est-ce qui fait place à l'identité et qu'est-ce qui fait place à la norme aussi.
Je voudrais qu'on parle un peu de la forme, et alors je vais vous laisser carte blanche. J'ai choisi, parce qu'évidemment j'ai choisi un passage à lire, hein, comme traditionnellement dans cette émission.
Donc c'est pas une carte blanche,
quoi. Mais si, parce qu'en face il y a un graphique.
Ah oui.
Je ne sais pas comment vous allez vous débrouiller pour nous expliquer comment ce livre est formé, j'allais dire.
Donc le graphique, c'est Nuit passée, donc où il y a une...
Nuit passée, hein, au
Nuit
pluriel,
passée, oui.
Voilà.
Et donc ça part d'un tronc qui est le total, 16 080, qui correspond donc à mes 44 ans, qui est le jour où j'ai décidé d'arrêter les chiffres, et qui se sous-divise en...
D'arrêter les chiffres, c'est-à-dire ?
C'est-à-dire qu'en fait, je vais faire, c'est un bilan à un instant T, donc cet instant T est le jour de mes 44 ans. Et donc, ça se sous-divise en nuit passée seule, 9439, nuit passée en couple, 5728. Mais ces nuits en couple se sous-divisent en chambre à part, chambre commune, chambre avec un de mes enfants. Et puis, il y a le nombre de nuits passées avec un de mes parents, enfant et adulte. Donc, adulte, c'est zéro. Voilà. Donc, là-dessus, ceci demandait évidemment une explication de texte, d'où texte qui a été écrit après. qui sont à la fois des liens libres avec les graphiques. Il y a les raisons objectives de faire chambre à part, ronflement excessif de l'autre, insomnie, maladie contagieuse ou nécessitant un isolement, ronflement excessif de sa propre personne, qui fait que c'est à vous d'aller dormir ailleurs, enfant venant de faire un cauchemar et prenant trop de place dans le lit. Il y a une raison subjective, mais plus primaire, l'envie d'être seul dans son lit, comme on en a eu l'habitude pendant la majeure partie de sa vie, avant. Une nuit sera la bascule, celle qui fera que j'aurai soudain passé moins de nuits seule qu'en compagnie. Soudain, dormir seul deviendra alors une nouveauté, ou quelque chose de perdu, d'oublié, que je retrouverai. Mon grand-père maternel n'a pas passé plus de 10 nuits séparés de ma grand-mère maternelle, en presque 60 ans de mariage. Il était avocat d'une culture écrite et séducteur. Elle refusait qu'il parte à l'étranger sans elle, par peur des autres femmes. De même qu'il trouvait les week-ends entre amis dangereux pour le couple. Le lendemain de la mort de ma grand-mère, j'ai vu mon grand-père pleurer sans pouvoir s'arrêter. Il était démuni sans elle. J'ai vu pour la première fois l'homme derrière le grand-père. Il l'a rejoint 830 nuits après. Le graphique suivant, c'est principaux rêves récurrents. Et donc je classifie en pourcentage ces principaux rêves. À 35%, le tenter de masquer le fait que je travaille à autre chose que ce pour quoi je suis payé comme salarié. Donc c'était pour un roman. À 5%, tomber dans le vide. À 25%, ressortir avec une ex pour la quitter ensuite. 5% allumer une cigarette avant de me rendre compte que j'ai arrêté de fumer. 20% arriver nu à l'école. 10% être poursuivi. Il devrait y avoir une ligne téléphonique accessible 24h sur 24 pour l'interprétation des rêves. Une sorte de helpdesk ou de hotline à destination de ceux qui ne sont pas en analyse, n'ont pas d'interlocuteur particulier avec qui discuter du rêve qu'ils ont fait. Des possibilités d'interprétation de celui-ci. Les proches n'étant pas qualifiés, indépendamment du fait que le récit des rêves n'intéresse personne. Il suffirait ainsi d'appeler ce service en se levant pour donner des éléments du rêve et recevoir des indices, des pistes de compréhension. Réveillé d'une nuit au rêve étrange, je n'ai pas rappelé le psychanalyste que je voyais avant. Et comme ce service n'existe pas, je devrais attendre d'en croiser un au hasard de la vie pour le lui raconter. Mais le rêve sera moins présent à l'esprit, ses détails moins précis, l'envie ou le besoin d'en chercher le sens moins fort.
Merci Charlie Delouart. Donc c'est un extrait hein, de ces deux pages en fait hein, de Data Biographie. On le disait tout à l'heure, vous avez travaillé avec une infographiste.
Oui, qui s'appelle Alice Claire.
Voilà. Qui normalement travaille dans un cabinet, disons, où on fait pas ces, on traite pas ces matières, ces data intimes.
Oui, en fait j'ai été voir, ils font vraiment de la data visualisation, c'est-à-dire qu'ils font des rapports complexes, multicolores.
Ça fascine Olivier Rollin.
Non, mais je trouve que graphiquement c'est très beau souvent.
Exactement, exactement.
Je ne les comprends pas toujours, mais je trouve ça graphiquement beau, oui. Et notamment, en fait, alors à la fin d'Index, là, enfin, c'est magnifique. Là,
Exactement. Bah, c'est une chevelure de femme. Oui. Vous qui êtes sensible aux chevelures de femme, celle de Dushanbe ayant la plus belle chevelure.
Ou les crinières de cheval.
Voilà.
C'est un mix. Et donc j'étais voir cette société qui s'appelait Datcha, et puis je suis tombé sur Alice Claire, qui était la graphiste, la créative, et qui s'est emparée du projet, et à qui on s'est très bien entendu, et donc on a fait un ping-pong de propositions et de chiffres ou de lisibilité, et puis après ça, on est arrivé avec la contrainte de le faire en monochromie, ce qui est vraiment un travail difficile, mais bon, il y avait peu de chiffres aussi. Et du coup, elle a réussi à garder des chiffres qui étaient exacts, des proportions, et à la fois à les poétiser.
Ouais. Mais elle n'est pas co-auteur.
Elle n'est pas co-auteur, non. Non, dans le sens que c'est mes chiffres.
Oui.
Enfin, la démarche.
Non, je trouve ça génial. Non, parce qu'il y a effectivement ce mariage hein, entre les données qui forment des dessins et vos textes. Et en fait, quand on termine le livre, après, c'est mon interprétation. Ça va rassurer Olivier Rollin, hein, qui est, je le sens inquiet sur ce chiffrement du monde.
Mais étonné un peu, mais
voilà. À la fin, on se dit au fond, il a eu besoin d'écrire, et on s'aperçoit notamment le passage que vous venez de lire, extrêmement poétique, sur justement le bureau des rêves, les évocations de votre grand-père qui ne pouvait pas dormir seul. Au fond, votre livre prouve à la fin, même si c'est des datas et des graphiques, qu'au fond, on a besoin de la narration et qu'il n'y a rien de tel pour se raconter que les mots. Et donc, en fait, on a l'impression que ce livre qui s'appelle Data Biographie, il signe quand même la victoire des mots sur les chiffres.
Je trouve aussi, ou leur entente. Moi, il y a une phrase que j'ai lue qui m'a beaucoup plu, c'est de dire c'est moins le portrait d'une personne que le portrait d'un auteur. Parce que justement, en fait, dans le livre, je mets aussi des bouts de romans. Je l'avais fait sur l'homme de profil, même de face, mais qui était moins structuré que ce livre-ci, où c'était un livre de liste. Il y a un livre de début de roman que je ferai pas, ou de dernière phrase. Et j'aime beaucoup l'idée aussi que ce qui définit quelqu'un, c'est l'ensemble des projets qu'il charrie, qui verront pas le jour, qui sont des cimetières de projets qu'on a. Mais je trouve qu'il y a des manières de les intégrer. On parlait tout à l'heure de qu'est-ce qu'un livre est par rapport au précédent. Pour moi, c'est c'est les mêmes choses qui énervent les livres, mais bon, ils prennent des formes différentes. Ou pour prendre un exemple, voilà, c'est un, il y a peut-être Modiano qui a un cas à part. Et encore, c'est parce que là, il y a vraiment une surprimauté de ces thématiques, mais c'est comme quand on prend les frères Cohen. Tout d'un coup, on a une esthétique appliquée à des thématiques très différentes ou des genres qui sont revisités. Moi, je trouve que, voilà, on doit chercher dans l'ensemble de ce que propose la littérature, qui est infinie, des manières les plus justes d'incarner ces thématiques.
Je voudrais lire la dernière phrase de Extérieur Monde. Puisque j'ai bouclé la boucle, je m'arrête là, avec aussitôt cet étrange sentiment qu'on a lorsqu'on achève un livre, non pas, ou pas essentiellement, de réussite, mais d'abandon, désemparé soudain, seul, qui fait qu'on recommencera, tant qu'on en aura la force, comme on continuera à se laisser étonner et instruire et façonner par le monde. On n'a pas expliqué le titre. Extérieur Monde, qui joue avec les codes du scénario, extérieur nuit, intérieur oui. Jour. Mais au fond, c'est un livre tellement intérieur.
Oui, mais c'est, enfin, j'espère que c'est, encore une fois, l'intérieur ne vient que par accident. Enfin, il vient par ricochet, exactement. Bon, par reflet. Ce que j'ai voulu quand même d'abord faire, c'est cette espèce de mosaïque de scènes piquées un peu partout dans le monde. Et voilà, l'intérieur, je reprends encore la métaphore là de du jeune Égyptien. Bon, moi je suis l'intérieur du vase, c'est-à-dire je suis le vide en même temps, mais malgré tout, ce qui compte dans un vase, c'est le vide qui est au milieu. Bon, donc voilà, Extérieur Monde, parce que c'est une intériorité définie par tout l'extérieur qui l'entoure. Bon, je pensais, parmi les données aussi qui ne se trouvent pas d'ailleurs dans le bouquin de Charlie Delwart, là, si je ne m'abuse, hein, il y a le nombre de visages qu'on a croisés, qu'on a contemplés, avec qui on a parlé. Bon, ça m'est venu tout d'un coup que quand j'écrivais le bouquin, je parlais enfin d'un type que j'ai rencontré il y a 30 ans, mais je ne dis pas que c'est il y a 30 ans, dans, c'était encore l'Union soviétique, enfin bon, et tout d'un coup, il sortait de tôle, enfin bon, et je me demande, voilà, qu'est-ce qu'il est devenu ce type, Alex? Bon, eh bien, je n'en sais rien, il est peut-être mort, il est peut-être devenu un entrepreneur, un mafieux, je sais pas. Mais quoi qu'il en soit, voilà, là, ce visage-là, avec les milliers d'autres que j'ai vus, que j'ai croisés, etc., qui j'ai parlé, c'est tout ça ma vie. Enfin, même si je sais plus ce qu'il est, ça me construit, ça me définit.
C'est vrai, ça. Pourquoi n'avez pas pensé au
visage? Si,
y a au visage.
Je pense à un truc qui n'a rien à voir, c'est que c'est le moment où vous devriez dire normalement, et maintenant on a retrouvé Alex, et Alex rentre dans le studio.
Voilà.
Non, il y a un passage où le nombre de visages croisés et le nombre de visages dont je me souviendrai. Et de nouveau, en fait, quand on parlait de comment calculer, c'est-à-dire c'est quoi un visage? À quel moment un visage on peut estimer qu'on l'a vu? C'est-à-dire c'est quoi? C'est quelqu'un avec qui on a entamé un bout de discussion, quelqu'un on a trouvé une forme d'accord? Est-ce qu'on l'a juste croisé deux secondes? Voilà. Donc c'est difficile aussi de se dire, de quantifier le nombre de visages qu'on a croisés, mais j'arrivais à un chiffre mais c'est parmi les plus difficiles à trouver, je trouve.
Vous avez inventé certains chiffres ?
Non, vraiment, j'essaie d'avoir une rigueur là-dessus. Je trouvais que le principe ne fonctionnait qu'en étant... Après ça, il y a des moments où, franchement, c'est de l'approximation. Mais de nouveau, je crois que c'est la masse comparée qui a un sens.
Et vous avez inventé des souvenirs, Olivier Rollin ?
Il y a qu'un détail que j'ai inventé, c'est tout.
Lequel ?
Vous voulez que je vous le dise ?
Ouais.
Eh bien, je raconte l'histoire d'une contravention absurde qu'on m'a collée dans une île des Açores où il doit y avoir 10 voitures au total. Et donc j'ai refusé de me payer cette contravention parce que vraiment je n'ai personne. On m'a emmené au commissariat, ils étaient gentils les flics, enfin bon, finalement ils m'ont laissé repartir sans payer ma contravention. Et puis le soir, un des flics qui portait un nom absolument magnifique, il s'appelait Artemisio Cabral Betancourt, bon, vient à l'hôtel. Et il m'explique que si... il me supplie, il me dit payer cette contravention parce que sinon je vais passer pour un con auprès de je vais déconsidérer auprès de mes collègues. Bon. Et je la paye, en effet. Bon, parce que je trouvais qu'il était émouvant. Et alors j'ai rajouté et qu'on a fini par boire un verre ensemble, et ça c'est pas vrai.
Et ça, c'est pas
mais
vrai.
C'est l'unique chose qui n'est pas vraie.
Ça sera la photo absente de cette exposition livre que vous ferez peut-être avec Charlie Delwart. Ça serait pas mal, vous, en vis-à-vis. Deux usages du monde. Les chiffres, les visages, enfin non, les visages vous réunissent. Donc deux usages du monde, mais la même attention aux visages que vous avez croisés. Merci beaucoup.
Merci.
Merci Olivier Rollin. Je rappelle le titre de votre livre, Extérieur Monde, chez Gallimard. Merci Charlie Delwart.
Merci à vous.
Data Biographie, chez Flammarion. C'était Le Temps des Écrivains, avec Anne-Catherine Lochard et la complicité de Tsolag Paloyan, Jean-Christophe Francis à la réalisation et Alain Joubert à la technique. Vous pouvez nous suivre et commenter sur Facebook et Twitter, podcaster à l'infini sur franceculture.fr. cette émission en compagnie d'Olivier Rollin et de Charlie Delwart.